Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan.
Elliot.
On commence l'émission dans un instant. D'abord l'information avec Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Un homme a été condamné à 7 mois de prison pour avoir volé des documents relatifs aux Jeux Olympiques. Âgé d'une vingtaine d'années, il a été jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris. Lundi dernier, un employé de la mairie avait porté plainte après s'être fait voler une sacoche dans un train. Elle contenait donc un ordinateur et deux clés USB avec des plans de sécurisation des JO de Paris. L'Allemagne enquête sur une très grave fuite au sein de son armée. Des échanges entre plusieurs officiers allemands ont été diffusés sur des réseaux sociaux en Russie. Ils portent sur des livraisons d'armes à l'Ukraine et leur impact potentiel. Enfin, des centaines de Russes ont défilé à Moscou devant la tombe d'Alexeï Navalny. Plus de 2 semaines après son décès, le principal détracteur de Vladimir Poutine a été enterré hier. Et selon des ONG de défense des droits humains, au moins 128 personnes ont été arrêtées lors des hommages à Alexeï Navalny.
Merci Mathieu pour le point sur l'information. À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, dans l'indifférence médiatique et politique, Marion Maréchal a été honteusement attaquée au salon de l'agriculture. Un homme lui a lancé un verre de bière sur le visage. Il y a quelques mois, Marion Maréchal était qualifiée de pin-up sur un plateau d'une chaîne d'information sans que cette insulte ne provoque la moindre réaction des féministes. Est-ce qu'en étant de droite, l'insulte, la violence doit être tolérée ? Pourquoi cette indignation à géométrie variable ? On en parle dans un instant. À la une également, la campagne européenne sera pour certains antifasciste ou ne sera pas. Reste à savoir ce qu'il faut mettre dedans. La contestation de l'européisme, c'est antifasciste ou non ? L'appel à la paix, antifasciste ou non ? À 100 jours de l'élection, quels sont les enjeux des européennes ? Éléments de réponse dans cette émission. Enfin, Mathieu, vous recevez Laurent Dandrieux, journaliste, critique cinéma, auteur entre autres du dictionnaire passionné du cinéma, de la Cinémathèque idéale. Une semaine après les Césars, comment se porte le 7e art en Hexagone ? Voilà le programme Face à Mathieu Bock-Côté, c'est parti. Question absolument passionnante, Mathieu Bock-Côté. Est-il légitime d'agresser les femmes de droite ? De passage au salon de l'agriculture, Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête aux élections européennes, a été agressée. On lui a déversé presque un tonneau de bière sur la tête. Si la femme politique a bien réagi, on ajoutera toutefois qu'elle n'a pas vraiment reçu de soutien de la part des autres femmes politiques, encore moins des féministes engagées contre les violences faites aux femmes. Et tout cela vous amène à vous poser quelques questions désagréables.
Oui, parce que alors je balaie dès maintenant l'idée que Marion Maréchal n'aurait pas vraiment été agressée. Elle aurait seulement reçu un verre de bière, un tonneau de bière. C'est pas très grave, c'est de la bière. C'est pas très grave, il faut prendre ça avec humour. Ce qu'elle a fait d'ailleurs, je le précise, je devine qu'elle n'a pas trouvé ça agréable. Mais je devine qu'elle l'a fait pour ça permet de neutraliser l'effet médiatique d'une telle agression. Mais qu'on se comprenne bien, il s'agit d'une agression physique. Il s'agit de la version liquide, entre guillemets, de l'entartage. Mais l'entartage, ce n'est pas qu'une stratégie. C'est pas seulement fait pour faire rire. En fait, c'est une agression dissimulée derrière l'illusion d'un sourire. C'est une agression ludique. Mais c'est une agression néanmoins qui surtout envoie un signal dans l'espace public. Cette femme est une cible. Cette femme, nous pouvons l'agresser. Et après, dans ce cas-là, le verre de bière, j'ose pas dire le boc de bière. Après le verre de bière, eh bien, quelle est la suite ? Donc, c'est la possibilité de l'agression physique qui vient d'être posée avec Marion Maréchal. D'ailleurs, les services de sécurité qui font probablement tout ce qu'ils peuvent pour leur travail n'ont pas été capables, dans de telles circonstances. Il s'agit juste qu'on ne dédramatise pas ce qui s'est passé, parce qu'une fois qu'une cible est fixée, la suite, c'est la radicalisation de l'agression contre cette cible. Premier élément, mais vous l'avez noté avec raison, très très peu d'écho médiatique, quelques-uns, c'est pas un silence total, mais quelques, très peu d'écho médiatique, comme s'il était légitime d'agresser Marion Maréchal. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs, la politesse m'interdit de les citer, mais plusieurs des journalistes, quelquefois belges, je le précise, c'est étonnant, ou peut-être pas finalement, dire c'est une micro-agression contre une fasciste qui est tout à fait légitime. Micro-agresser les fascistes, c'est très bien. Et là, des journalistes se permettent de dire cela. Donc, on est devant des gens qui applaudissent lorsqu'on s'en prend physiquement à une femme. Les violences faites aux femmes n'importent plus. Mais il y a pas... Je note un commentaire, cela dit, qu'il vaut la peine de mentionner. C'est celui de Gilles Clavreul, qui, à son nom, vous le noterez, n'est pas une femme, et qui est un intellectuel de gauche de qualité. On peut être en désaccord avec lui sur plusieurs points, mais c'est un homme de qualité qui a dit « Se réjouir de voir une femme humiliée, quoi que l'on pense d'elle, quoi qu'elle ait fait, n'est-il pas justement quelque chose à voir, sinon avec l'idéologie, du moins avec cette disposition perverse qui rend le fascisme possible ?» Donc, acte, certains intellectuels de gauche se sont marqués leur opposition. Ils étaient un peu rares, hélas. Mais ça me fait penser à d'autres cas des dernières années qu'il faut mentionner pour avoir tout le portrait à l'esprit. Pensons à notre collègue Charlotte Dornelas, qui avait, c'était sur France Inter, un humoriste, vous savez, ces gens qui sont payés plus cher qu'ils ne le devraient pour faire des commentaires qui ne sont pas drôles et qui prétendent l'être, et qui avait fait un commentaire « La politesse m'interdit de dire autre chose que disgracieux et odieux » au sujet de Charlotte Dornelas. C'était permis de le faire, et encore une fois, sous le signe du rire gras, d'un discours qui, à ce que j'en sais, dans une époque marquée par le MeToo, devrait heurter les consciences. C'était avant la vague MeToo, mais devrait heurter les consciences. Là, aucun souci, parce qu'il était encore une fois permis d'être non seulement graveleux, non seulement rigolard, mais tout simplement odieux avec une femme, parce qu'elle était présentée comme étant de droite. Notre collègue Christine Kelly aussi, qui a dû souvent, pour exercer son métier, avoir des gardes du corps autour d'elle. Est-ce que ça fait des menaces de mort? Est-ce que dans l'espace médiatique, on a entendu quelque chose comme une solidarité à l'endroit de Christine Kelly, qui soit, disons, je le précise, je la classerai pas femme de droite, entre guillemets. Ce que je sais, c'est qu'elle accepte d'interviewer des gens dits de droite sans les traiter immédiatement comme des monstres et comme des diables. On appelait ça autrefois du bon journalisme. Mais parce qu'elle ne participait pas au processus de diabolisation, on s'est donc permis de la menacer. Christine Kelly a dû vivre avec des agents de sécurité. Est-ce que pour d'autres journalistes, on trouverait ça tolérable? Eh non, mais pour Christine Kelly, on n'en parlait pas. Je donne un autre exemple d'une figure plus polémique, celle-là, Thaïs d'Escuffon. On peut être en désaccord ou non avec ce qu'elle fait, la question n'est pas là, mais le fait est qu'elle a été, cette semaine, la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, intimidée par des antifas sur une terrasse où elle était avec, une amie et sa grand-mère, quelque chose comme ça. Et peu importe ce que l'on pense des propos de Mme d'Escuffon, eh bien, il n'est pas légitime d'intimider en terrasse qui que ce soit. Vous savez, des gens cagoulés, des gens masqués, qui n'ont même pas le courage de s'afficher et qui décident d'intimider quelqu'un en la traitant de fasciste sur une terrasse comme s'il se permettait de s'emparer de l'espace public. Et là, qu'on se comprenne bien. Je ne mets pas toutes ces femmes dans la même catégorie. Elles ont chacune leur singularité. Elles ont chacune leur distinction. Je dis qu'une certaine gauche les met dans la même catégorie. Elle ne les aime pas, donc elle les classe à droite, entre guillemets. Et dès lors, contre elles, les agressions, les menaces, les agressions physiques, les propos les plus insultants sont permis. Ça nous en dit beaucoup sur l'éthique du débat.
Mathieu Bocoté, vous nous présentez ici une véritable dégradation des mœurs politiques. N'y a-t-il pas ici le rêve d'en finir tout simplement avec ces ennemis que la gauche ne cache plus finalement?
Eh bien, une certaine gauche, assurément, et on l'a vu aussi dans une controverse qui dure depuis une semaine, qui a commencé sur les services publics, qui s'est poursuivie sur les réseaux sociaux et qui a été reprise dans la presse de gauche. Je parle de l'émission de Réplique la semaine dernière, donc non pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, présentée par Alain Finkielkraut sur les services publics, qui recevait, pour parler de la question du féminisme, Noémie Alioua, qu'on a reçue ici d'ailleurs, qui a écrit le livre « La terreur jusque sous les draps », et Victoire Tuaillon, qui est une néo-féministe très, très militante. Bon. Les trois sont là, le débat a lieu, il est assez vigoureux quand même. Après l'émission, que se passe-t-il? Eh bien, Tuaillon et Alioua postent sur Twitter, je crois, même avant l'émission, pardonnez-moi, mais ils prennent la photo après l'émission et la postent ensuite, une photo du trio qui a débattu. Et là, il y a une réaction très vive de la part de Victoire Tuaillon, une réaction de la base de Victoire Tuaillon, non pas d'elle, qui disent « Mais comment avez-vous osé débattre avec cette femme qui est une réactionnaire? Et comment avez-vous osé débattre avec Alain Finkielkraut, qui est un réactionnaire lui aussi? » Parce qu'ils sont tous réactionnaires. S'ils ne sont pas néo-féministes, ils sont tous réactionnaires. Et là, encore une fois, des propos orduriers. Et on accuse, on dit, les idées moisies de Finkielkraut et de Alioua. Donc, on n'est pas devant des gens avec qui on peut débattre. On est devant des idées moisies, apparemment. Philosophe fréac, lui, pour Finkielkraut. Elle, Alioua, on l'accuse d'avoir trahi son sexe parce qu'elle prend la défense de l'amour et se montre critique des excès d'un certain MeToo, notamment. Donc là, le débat est très vite sur les réseaux sociaux. Donc, que fait Victoire Tuaillon, qui a été très, qui est critiquée par sa base? Elle s'excuse ensuite dans un tweet qui suit sur Twitter, où elle s'excuse à sa base d'avoir pris cette photo avec Finkielkraut, avec Alioua, en disant, en fait, genre, c'est un rire sardonique, c'est un rire moqueur, c'est un rire sans respect, c'est un rire de mépris devant ses réactionnaires. Et elle s'excuse à sa base d'avoir osé parler au camp d'en face. Alors, faut qu'on se comprenne. Elle était très heureuse d'être invitée chez Réplique. Elle était très heureuse de débattre avec Alain Finkielkraut et Noémie Alioua. Elle était très heureuse d'avoir cette consécration intellectuelle. Mais quand sa base la conspue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de se tourner sans la moindre courtoisie contre ceux avec qui elle a débattu, avec qui elle avait pris une photo qu'elle avait publiée avec fierté sur les réseaux sociaux. Elle se retourne contre eux et elle transgresse les règles élémentaires de la courtoisie. Je me permets d'en parler parce qu'il y a une suite de tout ça dans la presse de gauche, notamment dans Libération. Et dans Libération, il y a un papier avec ce titre exceptionnel. Pourquoi c'est compliqué de débattre avec Alain Finkielkraut quand on est féministe? Et là, il y a tout un papier donc, de Mme Johanna Luyssen, j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui dit finalement, on ne doit pas aller débattre avec Finkielkraut, c'est une figure illégitime, aller débattre chez lui, c'est légitimer son existence. Et elle terminait son papier avec la phrase suivante. Lorsqu'une féministe va sur le plateau de Finkielkraut. En revanche, leur présence même participe à légitimer une émission qui, sans ces quelques faire-valoir progressistes distillés ça et là, histoire de donner le change, pourrait aussi bien quitter le service public pour aller squatter les podcasts de chez Valeurs Actuelles. Venir débattre à Réplique afin d'empêcher Alain Finkielkraut de se ghettoiser, voilà un combat féministe qu'on pourra qualifier sans problème de secondaire. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'Alain Finkielkraut, sur France Culture, pour ceux qui sont familiers de cette chaîne radio, il incarne le pluralisme sur France Culture. C'est la voix dissidente. Et non pas parce que voix militante, mais justement parce que voix non militante. Et plus encore, dans son émission, il a toujours le souci d'avoir les deux points de vue. Donc, il refuse le concert sous le signe de l'unanimité. Il a toujours le souci du pluralisme dans ses émissions. Et bien, que nous dit-on dans Libération? Que c'est une voix de trop qui devrait se retrouver avec les podcasts de Valeurs Actuelles, ce qui ne serait pas déshonorant, soit dit en passant, et qui devrait quitter le service public parce qu'il est de trop sur le service public. Finkielkraut, je n'ai pas l'impression qu'il est dominant sur le service public. Ce que j'en retiens, c'est que pour ces gens-là, le pluralisme, c'est très mal sur le service public. Puis après ça, ces gens-là donnent des leçons à d'autres en expliquant qu'il n'y a pas assez de pluralisme chez eux. Je dis ça comme ça. Donc, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cet appel à la purge lancé contre Finkielkraut en disant nous devons le bouder, nous devons le boycotter pour faire en sorte que lui et ses amis, lui et ceux qui pensent un peu comme lui, soient enfermés en eux-mêmes et qu'on puisse enfin se délivrer d'eux sur le service public.
Mathieu Bock-Côté, autrement dit, vous nous parlez d'une société plus tolérante à la violence qu'elle ne le dit.
Alors, ça m'a pris du temps à le comprendre, mais nos sociétés ne sont pas du tout contre la violence. Elles veulent simplement une violence ciblée, ciblée contre ceux qui pensent mal. Les antifas, lorsqu'ils décident de frapper, les antifas, lorsqu'ils décident de se comporter de la manière la plus violente qui soit, ne sont à peu près jamais sanctionnés. Ce n'est pas un détail. On essaie de comprendre cette complicité. Lorsqu'ils essaient de chercher à déstructurer un meeting, par exemple d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen ou d'autres, eh bien, il y avait une complaisance dans les médias pour ça. Et lorsque finalement des gens se défendent lorsqu'ils sont agressés par les antifas, on présente ça comme une rixe. C'est assez particulier quand même. Mais il y a aussi une forme de violence institutionnelle dans nos sociétés. Lorsqu'on veut censurer des intellectuels, des penseurs, des écrivains, des journalistes, peut-être même des médias, qui ont le malheur de ne pas reproduire exactement le discours de l'idéologie dominante. On est dans une société qui n'est pas antiraciste. Elle tolère parfaitement le racisme anti-blanc. Elle va même jusqu'à expliquer que si vous nommez le racisme anti-blanc, c'est que vous êtes vous-même un raciste blanc. On est dans une société qui tolère très bien le racisme pourvu qu'il s'agisse du racisme anti-blanc. C'est quand même assez étonnant. Donc, on est dans une société qui, finalement, depuis plusieurs années, une trentaine d'années, a multiplié les persécutions idéologiques, politiques, financières, bancaires, contre les atteintes à la réputation, la destruction des carrières, contre ceux qui y pensaient mal. Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça s'étend de plus en plus et ça ne fera plus seulement une marge de la population, ça touche de plus en plus de gens et on se rend compte que nos sociétés libérales sont bien infidèles à ce qu'elles prétendent être.
Arthur de Vatrigan, il y a des violences qu'on n'accepte pas mais qu'on ne condamne pas forcément.
Il y a des violences qu'on accepte aussi, mais ça fait bien longtemps que cette gauche, parce que c'est une partie de la gauche, mais qui est de plus en plus importante, est devenue l'asile de tout ce qu'elle feint de combattre. Donc vous avez la violence, le racisme, l'antisémitisme, et le sexisme évidemment, et surtout bien d'autres. Le problème c'est que, à partir du moment où vous voyez le monde en noir et blanc, déjà c'est plus facile à vivre, mais vous avez juste deux camps, il y a le camp du bien et les autres. Il y a la nuance, l'incertitude, le doute, ça n'existe pas. Donc à eux, le camp des élans nobles, de l'aspiration au bien et au vrai, et aux autres, le camp des heures sombres. Donc, si vous voulez, ils ne voient pas dans l'autre une différence de point de vue, ils voient dans l'autre une différence de nature. Ça change tout le rapport que vous avez à la politique et au monde. Il faut juste écouter leur vocabulaire, ou le lire, désobéissance civique, idées moisies, éliminées. Combattre néo-fasciste, post-fasciste, nazi. Alors, certes, ils ont l'imagination dans l'usage des synonymes, évidemment, mais tout ce vocable-là ne relève pas de la politique. C'est un vocable qui relève de la guerre, tout simplement. Donc, ils ne sont pas là pour s'opposer. Ils sont là pour anéantir et combattre. Donc, forcément, quand vous appartenez à l'un ou l'autre camp, vos droits ne sont pas les mêmes. Donc, vous pouvez jeter de la bière sur un adversaire politique, vous pouvez jeter des cocktails Molotov sur la police, vous pouvez asperger de soupe la Joconde, vous pouvez crever les pneus de voiture, vous pouvez interdire des réunions à des personnes parce qu'elles sont blanches, vous pouvez évidemment appeler des terroristes résistants, vous pouvez réduire une femme à son corps et maquiller vos pulsions de beauf en rude par de l'humour subventionné, comme c'était le cas sur France Inter. Vous pouvez marcher avec la tête de Marine Le Pen en une pique, on l'a vu plusieurs fois. Vous pouvez également transformer la tête d'un ministre en ballon de foot. Vous pouvez convoquer une chaîne d'info, un comité de salut public, sans que la corporation qui s'y prompte à agir habituellement ne bronche cette fois-ci. Donc voilà. Mais après, moi j'admire quand même cette gymnastique de leur conscience, cette capacité à s'asseoir sur tout ce à quoi ils croient, ou en tout cas ils annoncent croire, sans honte, et à prendre les Français pour des imbéciles. Mais il y a des raisons à cette violence, elle n'est pas arrivée comme ça d'un coup. Il faut déjà rappeler que la violence a toujours été revendiquée par l'extrême gauche. C'est dans son ADN. Alors tant que le jeu démocratique lui permet de grimper, elle accepte le jeu les règles et elle monte. Mais une fois qu'elle a atteint son plafond de verre, elle sort sans problème du jeu pour assumer une radicalité, une rupture et normaliser la haine et la violence. Or depuis 2017, l'extrême gauche est devenue la norme à gauche et tout ce qu'on appelait gauche de gouvernement, gauche républicaine, est devenu une marge. Et ensuite, vous avez quand même des débats qui sont autre chose que ceux que vous aviez il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'est des débats qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus violents. Les questions auxquelles on doit répondre, la France doit répondre, ce n'est pas des points de CSG, ce sont des questions civilisationnelles. Donc c'est autrement plus complexe. Et l'enjeu, justement, qui est si primordial, justement, devrait nécessiter de la prudence. La prudence, c'est ce que nous rappelaient les Grecs, nos anciens, c'est l'automne de la réflexion, de la sagesse, et ça demande du courage pour justement confronter les idées, les opinions et l'information. On appelle ça, si vous voulez, la démocratie. Mais cette gauche-là, elle a choisi autre chose. Elle a choisi, en bonne héritière de Robespierre, de nommer l'ennemi, de le désigner, et puis ensuite de vouloir l'éliminer.
Autre sujet à présent, Mathieu Bock-Côté. Céline Hayer, que personne ne connaissait cette semaine, est désormais la tête de liste Renaissance européenne. Elle a précisé sa lecture des enjeux au cœur de ces élections. Et si on la comprend bien, elle semble croire qu'elles ne sont pas sans lien avec la Seconde Guerre mondiale. Expliquez-nous.
Elle a une culture historique approximative, je crois. Alors, je cite Le Monde, qui est les propos rapportés dans Le Monde. Le risque, c'est de vivre un Brexit de l'intérieur si les eurosceptiques sont majoritaires. Ces forces veulent mettre fin au projet de Jacques Delors et de Simone Veil. Elles veulent détruire l'Europe de l'intérieur et mettre à bas notre modèle démocratique. Ce sont les alliés objectifs de Trump et de Poutine. C'est le programme de Jordan Bardella et de l'AFD allemande, un parti néo-nazi qui défend un projet de remigration. C'est Viktor Orban qui ironise sur les chambres à gaz. Alors, franchement, j'ai lu ça, je me suis dit, on dirait en bon québécois de que c'est. C'est-à-dire de quoi, mais un étonnement tel qu'on dit de que c'est. Je vais m'expliquer, c'est vraiment c'est du québécois ça. Alors, on va décomposer l'affirmation. Le Brexit de l'intérieur, donc le Brexit, c'est vrai. C'est une critique légitime du point de vue qu'on peut faire des partis souverainistes eurosceptiques. Ils veulent diminuer l'influence de Bruxelles dans la vie des nations. La fin du projet de Jacques Delors et de Simone Veil. Alors là, c'est assez intéressant. Donc l'Europe que nous construisons, c'est l'Europe de Jacques Delors. Jacques Delors qui parlait d'une fédération des États-nations et qui disait que ceux qui étaient contre Maastricht devaient quitter la politique. C'est une conception assez orientée. La mention de Simone Veil dans les circonstances, on comprend, c'est simplement dans le cadre du débat sur l'IVG qui revient, c'est une manière de dire si vous n'êtes pas avec nous, eh bien vous êtes avec les ennemis de l'IVG. Ah d'accord, bien tourné. Détruire l'Europe de l'intérieur, déjà c'est plus étrange. Donc il y a des forces qui veulent détruire l'Europe en Europe. Non, pas déconstruire l'Union européenne, détruire l'Europe. Mettre à bas notre modèle démocratique. Donc on comprend qu'en ce moment, c'est plus un débat de différentes forces démocratiques. Il y a ceux qui veulent sauver la démocratie et des forces antidémocratiques qui seraient les populistes. Donc là, on entre dans la logique de l'extrême-centre qui consiste à dire qu'on doit exclure de la vie publique et du débat politique des forces qui, parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans notre idéologie, sont accusées d'être antidémocratiques. Allié objectif de Trump et de Poutine. Alors, je précise que ces deux-là sont différents, soit dit en passant. Mais on comprend qu'il s'agit de diaboliser jusqu'à Poutine. À ce que j'en sais, la complaisance pour Poutine n'est pas la norme chez tous les eurosceptiques. Le programme de Bardella est assimilé au néonazisme. Bon, ça, franchement, devant ça, je capitule. La bêtise peut triompher. Et Viktor Orban, qui est transformé en un esprit qui banalise et rigole sur les chambres à gaz, donc un crypto-nazi. La boucle est bouclée. Ce dont il est question, en mois de juin, c'est de la lutte contre le nazisme.
Et justement, Mathieu Bock-Côté, autrement dit, à vous entendre, Renaissance assimile au fascisme et même au crypto-nazisme l'idée de rompre avec la dynamique européiste que l'on connaît depuis Jacques Delors.
Exactement. Autrement dit, l'Europe est confisquée par ces européistes en disant « l'Europe, c'est nous et c'est personne d'autre ». Donc si vous voulez le primat du droit national sur le droit européen, si vous êtes critique de la bureaucratie, de la technostructure, si vous vous plaidez pour une Europe qui véritablement stoppe l'immigration massive, eh bien vous basculez dans le fascisme parce que c'est une extension du domaine de l'antifascisme. L'antifascisme, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la leçon du plus jamais ça, plus jamais l'horreur du nazisme, plus jamais l'horreur du fascisme. Mais on en est venu à croire, avec cette logique, que toute forme d'adhésion à la nation, au patriotisme, à l'enracinement, à l'identité, c'était du nazisme, ou du fascisme, ou du crypto-fascisme. Et toute forme de souverainisme est un crypto-fascisme. On en vient à oublier que ceux qui se sont battus contre les nazis défendaient la souveraineté de leur pays, tout comme ceux qui se sont battus contre les communistes en Europe de l'Est. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On censure, on étend sans cesse la définition du fascisme, on l'assimile à faire toute force d'opposition, et au final, si vous êtes devant des fascistes, vous ne débattez pas, vous combattez, et dès lors, il vous est permis presque d'interdire leurs propos si nécessaire.
Alors, si les Européens n'ont rien à voir avec l'antifascisme, quel est l'enjeu majeur des Européennes?
Mais les conceptions de l'Europe divergentes, je pense qu'on devrait être capable de débattre sérieusement de l'Europe en laissant de côté la Deuxième Guerre mondiale qui n'est plus, nous n'en sommes plus contemporains. Il y a les partisans d'une Europe fédérale centralisée, presque d'un État européen, la mouvance centriste, Renaissance, ainsi de suite. Il y a les partisans d'une Europe civilisation, les partisans de la droite nationale, conservatrice. Il y a les partisans d'une Europe laboratoire du socialisme ou du néo-socialisme, la gauche radicale. Donc, il y a différentes conceptions de l'Europe qui s'affrontent. Est-il possible de les mentionner sans donner l'impression qu'on rejoue éternellement 39-45, 39-45, 39-45? Les fascistes ont été battus, les nazis sont enterrés. C'est merveilleux, on s'est délivré de cette plaie de l'humanité. Est-ce qu'on pourrait cesser de se battre contre des fantômes? Les fantômes ne sont pas présents, ne sont pas vivant.
Arthur de Vatrigan, quels sont les enjeux de ces élections? C'est la lutte contre l'antifascisme, contre le fascisme, pardon.
Ah bah ça, à chaque élection, de toute façon, la lutte antifascisme va revenir. On sort la bêtimonde de sa poche, on l'agite. Là, il faut reconnaître que Mme Maillet, qui était inconnue jusqu'alors, a fait fort pour son entrée dans l'arène. Sauf que la finesse du bazooka, autant ça marchait il y a quelques années, autant je ne suis pas certain que ça fonctionne aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a affirmé son positionnement, qui était le même que celui qu'Emmanuel Macron a eu face aux agriculteurs le week-end dernier. Si elle ne sera pas une élue française au Parlement européen, elle sera une syndicaliste de l'Union européenne en France. Alors, dans ses déclarations, son interview notamment au Figaro, c'est intéressant, elle dit « Depuis 2017, notre bilan européen parle pour nous ». Bon, alors si le but était de faire imploser l'Europe, ça c'est sûr que ça parle pour eux. Je ne suis pas certain que ça soit l'objectif de la Macronie. Ensuite, elle a quand même compris qu'il fallait glisser quelques mots magiques, patriotisme et tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit « Qu'est-ce que le patriotisme ?» C'est, je la cite, « l'état de droit ». Le droit des femmes à disposer de leur corps et la liberté de la presse. Donc c'est pas une blague. Hein. C'est beau comme Sandrine Rousseau qui expliquait que Jean Moulin était mort pour notre protection sociale et la retraite à 62 ans. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique la différence c'est qu'elle a avec un Suédois, un Anglais ou un Allemand, parce que la langue, la culture, l'histoire, l'architecture, tout ça, on s'en tamponne. Le patriotisme, c'est l'état de droit. L'état de droit, le nouveau dogme qui va peut-être permettre à un imam qui nous crache dessus, qui nous déteste, de revenir sur notre sol pour voiler Marianne, par exemple. Ça valait le coup de brûler Jeanne d'Arc et se fassir deux guerres mondiales avec les Allemands. Mais passons. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'elle s'inscrit complètement dans l'héritage de Jacques Delors. Et Jacques Delors, je rappelle, discours à Strasbourg en 99, qui déclare « L'Europe est une construction à l'allure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé. » Alors, comme il ne peut pas y avoir deux patriotismes et deux souverainetés sur le même territoire, vous ne pouvez pas non plus avoir et une démocratie et un despotisme.
Merci Arthur de Vatrigan. De que c'est ?
De que c'est ? C'est comme, imaginez un étonnement tel,
oui, de que
vous
c'est.
Ne dites même plus quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de que c'est ?
De que c'est, ça, cette première partie va trop vite.
Ah, très bien.
Voilà, la publicité.
Vous en prendrez.
On revient dans un instant, Laurent Dandrieu sera notre invité. A tout de suite. 19h30 sur CNews, l'information Mathieu Devez.
Le salon de l'agriculture touche bientôt à sa fin. Il fermera ses portes demain et selon le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, le gouvernement est au rendez-vous de ses engagements. De leur côté, les syndicats agricoles ont rendez-vous avec Emmanuel Macron à la mi-mars avant la présentation d'une loi d'orientation agricole au printemps. Il n'y a pas de clash franco-allemand. Nous sommes d'accord sur 80% des sujets. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné dans un entretien accordé au Monde. Des différents manifestes sont apparus ces derniers jours entre le président français et le chancelier allemand sur l'Ukraine. Emmanuel Macron semble reprocher à l'Allemagne de ne pas envoyer certaines armes lourdes. Enfin, Paris juge les autorités israéliennes comptables de la situation à Gaza. Selon Stéphane Séjourné encore, les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes, alors que la France a redoublé d'efforts pour augmenter le nombre de points de passage et de camions humanitaires.
Merci beaucoup Mathieu Devez, Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan bien sûr sont sur le plateau. Bonsoir Laurent Dandrieu.
Bonsoir Eliott Deval.
Je rappelle que vous êtes journaliste, auteur, spécialiste cinéma, critique cinéma.
Entre autres choses.
Pourquoi avoir invité Mathieu Bocoté ce soir Laurent Dandrieu ?
Alors si je me fie à la rumeur publique, j'ai cru comprendre que le cinéma français était en crise. Et pour chercher à comprendre au-delà justement d'une présentation médiatique un peu, quelquefois un peu limitée, donc Laurent Dandrieu vous l'avez dit qui est... Critique cinéma, qui a aussi écrit tout récemment, on en parlera, une cinémathèque idéale, et aussi le dictionnaire passionné du cinéma, et un ouvrage sur Woody Allen. Donc pour en parler, c'était la personne idéale. Laurent Dandrieu, bonsoir.
Bonsoir Mathieu.
Alors si on cherche à comprendre, que se passe-t-il dans la crise qui traverse le cinéma français en ce moment ? Quel est le, on va reprendre la formule consacrée, de quoi cette crise est-elle le nom ?
Alors, elle est le nom, je pense, d'un rapport très particulier qu'a le milieu du cinéma français avec la morale. C'est-à-dire que c'est un milieu qui pratique très volontiers la morale à usage externe et qui ne veut jamais en entendre parler à usage interne. Usage externe, ça consiste à faire la leçon au monde entier et on l'a vu encore une fois cette année lors de la cérémonie des Césars où on nous explique ce qu'il faut penser des rapports hommes-femmes, du changement climatique, du racisme ordinaire, de toutes sortes de choses, avec effectivement un certain nombre de discours sur le mode prêchi-prêchat. Et en revanche, quand il s'agit d'interroger le rapport de ce milieu avec la morale pratique quotidienne des gens qui le composent et aussi la morale qui est portée par un certain nombre de films, là, c'est la grande omerta. Alors, on aurait pu penser que les accusations de Judith Godrèche contre deux cinéastes qui sont... deux figures très emblématiques du cinéma français, puisque ce sont deux auteurs assez ennuyeux et assez peu talentueux, disons-le, mais encensés généralement depuis des décennies par la critique. On aurait pu penser que ces accusations allaient interroger ce rapport à la morale, interroger le milieu du cinéma sur ses pratiques. Et en fait, la cérémonie des Césars a montré la difficulté de ce milieu à se remettre en question, parce que pris en flagrant délit d'indulgence vis-à-vis de gens qui sont accusés de prédation sexuelle, eh bien, on s'en est sorti en applaudissant à tout rompre le discours de Judith Godrèche, ce qui est une manière pour chacun de dire, puisque j'applaudis la procureure, eh bien, je suis blanc comme neige moi-même. Et par ailleurs, on a continué, comme d'habitude, effectivement, à donner des leçons de morale sur tout un tas de sujets, sans effectivement se remettre en question sur le nœud du problème, c'est-à-dire, en gros, est-ce que, pour schématiser, est-ce qu'on peut, pendant des décennies, applaudir les valseuses où l'on voit un personnage joué par Gérard Depardieu qui se comporte de manière ignoble avec les femmes, qui viole impunément et tout, dans un film qui nous montre ça comme extrêmement rigolo, et en même temps après s'étonner que Gérard Depardieu éventuellement puisse être accusé d'avoir des comportements similaires dans la vie réelle. Est-ce qu'on peut encensé des cinéastes qui, dans leurs déclarations et dans leurs films, piétinent toute espèce de considération morale, et après semblait s'étonner qu'ils aient des comportements similaires dans leur vie privée.
Alors, le mot moral ici est porteur d'une certaine ambiguïté. Parce que vous avez dit très justement, une bonne partie du cinéma français fait la morale souvent. Je le dis avec une forme d'agacement, mais le nombre de films qui portent la morale diversitaire aujourd'hui, qui nous expliquent ce qu'on doit penser, en fait, qui sont très idéologiquement structurés. Donc, quand vous dites un rapport d'indifférence à la morale, c'est pas à ça que vous faites référence. Il y a une morale qui était prescrite par le cinéma français, ou prêchée, mais qui n'est pas nécessairement ce par quoi vous appelez par l'indifférence à la vraie morale.
Voilà. D'ailleurs, ce que vous qualifiez de morale dans le discours du cinéma français, j'appellerais ça plus volontiers un discours idéologique, qui est en fait une répercussion du discours idéologique dominant. C'est très étonnant d'ailleurs de voir ce milieu qui se pense comme un milieu rebelle, indépendant, malpensant, voire punk. En réalité, décliner toutes les idéologies à la mode de manière extraordinairement servile. La morale dont je parle, moi, c'est le contenu d'une œuvre qui fait que elle nous pousse à nous interroger sur ce que c'est qu'une vie bonne. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait une œuvre d'art digne de ce nom. Mais on a un rapport très faussé à ça en France.
Oui, parce qu'on présente souvent ça comme étant presque, c'est presque ringard.
Et en fait, il y a un dogme, il y a un vrai dogme en France comme quoi une œuvre d'art doit, l'art ne doit absolument pas être moral. Et on renvoie toujours au fameux procès de Flaubert à propos de, qui lui était intenté à propos de Madame Bovary. Les raisons pour intenter ce procès étaient absurdes. On accusait ce roman d'immoralité parce qu'il mettait en scène un adultère. C'était complètement idiot. C'était d'autant plus idiot que le roman de Flaubert est un roman éminemment moral parce qu'il nous pousse à nous interroger sur la portée morale de nos actes. Et alors, ce n'est pas moral au sens il vous explique que ce n'est pas bien de faire ça et c'est bien de faire ci. C'est moral dans le sens où ça vous pousse à vous interroger sur la conscience, sur la portée morale des actes. Et ça, c'est une dimension pour moi essentielle de l'art qui a été complètement évacuée par l'idéologie contemporaine. De sorte qu'on en arrive à cette situation où vous avez des cinéastes comme Jacques Doyon, Benoît Jacquot, qui font des films qui, entre autres choses, explique que le moi a une liberté absolue d'exercer ses passions dans le sens où il l'entend. Et bien après, on a l'air de trouver très étonnant de découvrir que ces cinéastes, par ailleurs, dans leur vie privée, piétinent et effectivement toute forme de morale. Or, il y a évidemment une cohérence. Si vous évacuez l'art la morale de l'art, vous finirez par l'évacuer de la vie réelle.
Arsène de Latrigan.
Justement, sur la morale, c'est le rôle de la critique, donc de votre métier, mais également des distributeurs, d'avoir ce jugement moral, c'est-à-dire de faire de la censure. La question, c'est pourquoi c'est un petit monde qui se tient entre eux et pourquoi il n'y a pas d'autre discours que celui de la doxa. Comment nous sommes arrivés là à une représentation progressiste, gauchiste et vous êtes critique de cinéma, d'autres également, et pourquoi vous n'avez pas plus, votre voix ne se fait pas plus entendre ?
Justement parce qu'elle est ringardisée, je pense, hein, par les tenants de cette liberté absolue du moi qui, depuis des décennies, traite de réactionnaires obtus tous les gens qui, justement, veulent réintroduire un point de vue moral dans l'art et notamment dans la critique de cinéma. C'est un milieu, effectivement, qui, pour des raisons... qui sont probablement qui devraient être étudiés par un sociologue plus que par un critique de cinéma est un milieu qui est terriblement endogamique, terriblement conformiste où il faut surtout ne pas se distinguer du reste de la profession et puis c'est un milieu surtout qui depuis la nouvelle vague a fait un virage à gauche progressiste assez impressionnant. C'est-à-dire que je pense que jusque dans les années 60, il y avait, pour reprendre une expression très à la mode, un pluralisme interne dans le milieu du cinéma. Il y avait des gens de droite et des gens de gauche qui cohabitaient. Aujourd'hui, évidemment, il y a des gens de droite, mais ils se cachent. Quand vous savez quand vous interviewez un acteur, un metteur en scène, et que vous lui demandez, vous posez une question politique et qu'il vous répond, je préfère ne pas répondre parce que je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, vous savez que c'est un homme de droite qui est en train de se cacher. Et vraiment, vous êtes très, 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 très mal vu si vous vous affichez de droite.
Alors, vous avez publié tout récemment, enfin il y a quelques semaines, un livre, Une cinémathèque idéale. Donc, autrement dit, le cinéma français, mais pas seulement le cinéma français, a produit des œuvres qui étaient, non seulement que vous louangez, que vous dites, ce sont des œuvres qui sont formatrices, à la fois sur le plan artistique, peut-être aussi sur le plan moral, mais on a l'impression aujourd'hui, donc il y a des œuvres de référence. Mais on a l'impression aujourd'hui, je me trompe peut-être, qu'une partie du public déserte les salles de cinéma, déserte le cinéma français, à tout, comme si finalement il ne trouvait plus toujours son public. Donc autrement dit, comme si la cinémathèque idéale peinait à se renouveler. Question de toute simple à cette lumière, comment expliquer la désertion relative du public par rapport au cinéma ?
Elle est relative parce qu'effectivement il y a ces mécanismes de l'exception culturelle qui font que le cinéma français se porte plutôt mieux que ceux de nos voisins européens. Et notamment, on produit énormément, et donc dans le tas, il y a un certain nombre de tickets, j'allais dire, qui s'avèrent.
Sur un malentendu, il y a quelques grands films
gagnants. Le problème, c'est que il y a une désertion qui est due, je pense, en partie d'ailleurs à la critique, parce que à force de d'ouvrir toutes les semaines, je ne sais trop quel hebdomadaire culturel qui vous explique que tous les films français sortis cette semaine-là sont tous extrêmement intéressants, d'aller les voir et de constater qu'ils ne sont pas tous extrêmement intéressants du tout, eh bien forcément vous finissez par être un peu désabusé. Je pense qu'il y a un manque, il y a un manque de romanesque, il y a un manque d'ambition, il y a ce côté entre-soi aussi dont nous avons parlé, qui tente à produire des histoires faites toujours un peu par le même genre de personnes, qui racontent donc un peu le même genre d'histoire avec le même genre d'acteur. Il y a donc quelque chose d'extraordinairement monotone. Il y a un manque de souffle nouveau. Et puis, il y a aussi, trop souvent, effectivement, une dimension idéologique qui interdit de rendre le réel dans sa complexité. Je pense par exemple à un film qui est un contre-exemple, qui s'appelait Bac Nord, donc qui décrivait les conséquences concrète et pas extraordinairement positive de l'immigration dans le fait qu'elle constitue à certains endroits des ghettos qui deviennent des zones de non-droit, ce qui allait complètement à contre-courant du discours majoritaire du cinéma français qui représente massivement l'immigration comme une chance pour la France qui est juste arrêtée par des lois obsolètes et odieusement racistes. Eh bien, ce film-là, Bac Nord, a eu un grand succès public, mais le cinéaste a été quasiment obligé de s'excuser.
On l'a fasciser, on l'a extrême-droitisé.
Parce qu'on lui a reproché de faire le jeu, évidemment, du Rassemblement National, et bien sûr, il a dû jurer ses grands dieux que pas du tout, que son film n'avait rien de politique, et que tout ça était le fait du hasard. Et donc, on sent bien qu'il y a une pression très très forte, idéologique, sur les cinéastes et sur le milieu du cinéma, qui est interdit de rendre compte du réel dans toute sa complexité.
Arthur de Vatrigan.
Je pense que vous avez parlé de l'exception culturelle française. Peut-être rappeler le mécanisme aux téléspectateurs, peut-être quelque chose qu'on méconnaît, mais votre avis, vous, sur cette exception culturelle française, et est-ce qu'elle est encore justifiée aujourd'hui ?
J'ai un avis assez partagé sur la question. On sait que donc grosso modo le principe, c'est que un certain montant du prix de vente de chaque billet de cinéma, qu'il soit français ou américain, est prélevé pour alimenter un fonds de financement qui va permettre de financer la production de films français. Ça permet objectivement à notre industrie cinématographique d'être une des rares en Europe qui tiennent le choc, qui tiennent le coup, qui continue à produire de très nombreux films, dont un certain nombre sont de bonne qualité. Et c'est vrai que c'est ce système-là qui permet le triomphe actuel d'Anatomie d'une chute, qui est objectivement un très bon film. À côté de ça, c'est sûr que ça permet aussi de financer des tas de films qui ennuient tout le monde, que personne ne va voir. Alors moi, pour moi, c'est moins le mécanisme en lui-même qui peut être remis en cause que justement cette endogamie suscite un choix de sujet, un choix de financer certains sujets qui sont toujours les mêmes et qui excluent à l'inverse des sujets représentant une vision du monde différente qui n'ont jamais voix au chapitre de ce système de financement.
Alors faisons quelque chose que nous ne faisons pas souvent sur ce plateau. Soyons positifs. Soyons joyeux. Alors, si je vous demandais le plus grand film français que vous avez publié, je l'ai redit, Une cinémathèque idéale, donc vous proposez aussi votre dictionnaire passionné du cinéma, qui, je prends la peine de le dire, était exceptionnel. Votre Cinémathèque idéale, qui est un livre tout à fait intéressant et qui est très utile pour les familles qui veulent initier leur progéniture au cinéma.
Plus particulièrement aux familles, oui.
Exactement, donc orienté pour les familles qui se disent de quelle manière initier la marmaille au cinéma. Mais si je vous demandais le plus grand film français de tous les temps, vous auriez une réponse?
Alors, j'aurais deux réponses.
Évidemment, vous en avez deux.
En fonction de l'orientation de la question. S'il s'agit du film le plus prestigieux, celui qui est généralement reconnu comme le plus grand film de tous les temps, c'est évidemment Les Enfants du Paradis, qui est un film qui est au sommet du panthéon du cinéma français. Si vous me demandez, moi,
oui,
mon film préféré de l'histoire du cinéma français, c'est un film qui n'est pas pour les enfants, pour le coup, qui s'appelle Le Feu Follet, qui est l'adaptation par Louis Malle d'un très très beau roman de Drieu La Rochelle, qui est une merveille d'adaptation cinématographique jouée par Maurice René, qui est la preuve qu'on peut être de gauche comme l'était Louis Malle et faire un très beau film, et qui est d'ailleurs un beau film adapté d'un auteur de droite.
Alors, on va poser une autre question sur ce registre, mais mon ami Vatrigan en aura aussi pour vous. Alors, on dit souvent, et ça je le dis de l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a un art qui s'appelle l'art de la comédie française, qu'on ne parvient pas à reproduire aux États-Unis, qu'on ne reproduit pas vraiment ailleurs. Donc, il y a un art de l'humour à la française, à la fois grinçant, un peu méchant, subtil, intelligent, nuancé. Si je vous demandais la comédie à la française la plus... la meilleure, tout simplement, celle que vous recommanderiez pour vous initier à cet art qu'est la comédie à la française?
J'en aurais deux, évidemment.
Évidemment, vous trichez chaque fois, mais
voilà,
continuez.
Je triche. Non, évidemment, on ne peut que citer La Grande Vadrouille, qui est un modèle d'écriture, de finesse, qui combine à la fois comédie de mœurs, comédie de situation, avec ce duo absolument extraordinaire, et cet esprit effectivement très français dans le rapport des deux personnages antinomiques. Et après, je voudrais quand même en citer une autre qui est moins connue, mais peut-être plus française encore, qui est Les Mariés de Landau, de Landau, de Jean-Paul Rapneau, qui est une espèce de comédie-ballet extrêmement rythmée. Donc c'est un couple qui se déchire, Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo, à travers toute la Révolution et l'Empire. Il y a à la fois le souffle de l'histoire du romanesque, il y a énormément d'esprit, il y a des dialogues étincelants, et c'est très, 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 très français dans l'esprit.
Arthur de Latrigan, je veux passer à la question de notre ami.
J'ai deux petites questions. La cinémathèque idéale, c'est vous proposer des films à regarder en famille.
Oui.
Quel est le premier film à montrer à un enfant dès son plus jeune âge? Première question. Et deuxième question, pour venir dans le présent, parce qu'il n'y a pas que du passé, c'est que selon vous, quel est le plus grand cinéaste français contemporain?
Ça, c'est une très bonne question. Ouais, à partir de quand, enfin, jusqu'où va le contemporain? Ça, c'est...
Homer.
Il faut qu'il soit en exercice.
Vivant.
D'accord. Voilà. Alors, pour le plus grand en exercice, je dirais probablement Xavier Giannoli. Quoi qu'il n'ait pas fait que des chefs-d'œuvre, mais c'est un des cinéastes les plus intéressants d'aujourd'hui. Pour initier un jeune enfant au cinéma, je pense qu'il faut commencer par l'humour. Il faut commencer par le comique et je pense qu'il faut commencer par le burlesque, c'est-à-dire ce cinéma comique qui est globalement, pour faire court, à base de gens qui glissent sur des peaux de bananes et qui se prennent des portes dans la tête. Et ce qui est très bien, c'est que le burlesque, ça permet, on peut leur montrer des films muets. Donc on peut aller dans le très ancien et ça permet aussi du coup d'initier au noir et blanc, ce qui est pour moi une dimension essentielle parce que le cinéma familial, celui qui porte les valeurs que les parents ont envie de transmettre à leurs enfants, c'est souvent un cinéma d'autrefois, donc un cinéma en noir et blanc, et donc il faut y habituer les enfants très jeunes, et pour ça les films de Chaplin ou de Buster Keaton sont absolument irremplaçables.
Il nous reste moins d'une minute. Question, encore une fois toute simple, vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir du cinéma français? Vous avez l'impression d'être le contemporain du crépuscule?
Je suis assez optimiste s'il sait tourner le dos à ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il retrouve ce qui fait l'esprit du cinéma français. Et
qu'est-ce qui fait l'esprit du cinéma français par rapport à l'américain?
Eh bien, c'est ce qui est impossible à définir. C'est un cinéma qui doit être imprégné de notre esprit, de notre culture, de nos façons de faire. Et donc, il faut qu'il y ait une manière française de dialoguer, de s'intéresser aux personnages, de raconter des histoires. Et pour ça, il me semble que ce qui serait bon, c'est que les producteurs se dirigent vers un trésor qui est sous-exploité. Ce sont les adaptations littéraires. On a une montagne de romans absolument fabuleux qui n'ont jamais été portés à l'écran et qui, effectivement, donneraient des scénarios bien meilleurs que ceux qui sont généralement produits, malheureusement, actuellement par le cinéma français.
Merci à tous les trois. Vous m'avez donné envie de revoir Les Enfants du Paradis, mais c'est long, hein. Ça dure 2h40.
C'est long, mais on ne les sent pas passer.
Ah, mais bien sûr. Il n'y a jamais eu d'adaptation des Enfants du Paradis de Balzac ? Le médecin de campagne, pardon.
Médecin de campagne, je crois qu'il y en a eu à la télé, mais pas au cinéma, à ma connaissance.
Merci à tous les trois.
Mais c'est un plaisir, cher ami.
Dans un instant, c'est... Non, pas décaissé, c'est...
L'heure des pros.
L'heure des pros. Donc. Merci, à tout de suite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.